RLP.
Lui, c'est lui, et moi, c'est moi. Oui.
Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur. Le
big bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage, pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Grâne, au secours!
Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui dit une bêtise, c'est une bourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui dit une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question. RLP.
Bonjour, monsieur le président.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans vos locaux, dans votre bureau. Alors, nous allons commencer ce petit interview par quelques questions. La première concerne le millefeuille administratif français. Alors, le millefeuille administratif français, Union européenne, État, région, département de communautés et communes, ne rend-il pas l'action publique illisible, irrationnelle et coûteuse?
Alors, à cette question, je réponds oui. Mais après, la question qui reste posée, c'est quel est l'outil le plus efficient pour travailler avec les habitants?
Tout à fait.
Ah, vous voulez continuer?
Oh, oui, allez-y.
Oui. Oui, parce que aujourd'hui, les crises successives des 3-4 dernières années nous amènent à voir que les habitants ont envie de donner leur point de vue. Or, les réformes successives, hors l'Europe, qui est l'exemple le pire, mais l'Interco a comme effet, au bout de 20 ans, d'avoir éloigné les citoyens des lieux de décision. Les grandes régions viennent de faire le constat que c'est un échec d'avoir fait des régions. L'Aquitaine, c'est l'Autriche. C'est 6,5 millions d'habitants. Non, mais c'est l'Autriche en surface. Donc, il y a un éloignement énorme des lieux de décision. Et l'intercommunalité, on le voit dans l'agglomération de Périgueux, comme dans plein, mais il n'y a pas qu'ici. Vous allez à Agen, vous allez à La Rochelle, vous allez à Angoulême, les intercos sont en crise. Pourquoi? Parce que les gens ont envie de donner leur point de vue. L'endroit, tous les sondages montrent que l'endroit où ils se sentent le plus à l'aise pour faire part de leur sujet, c'est la commune. Et les communes sont progressivement vidées de leur pouvoir. Donc il y a une contradiction démocratique entre ces réformes qui s'ajoutent aux unes et aux autres.
C'est un plaisir de vous entendre dire ça.
Faites attention, vous faites une interview, vous voyez.
Oui, oui.
Et du recul.
Deuxième question. D'autres solutions pour rationaliser l'action publique locale étaient possibles et ont même existé, je pense, aux syndicats intercommunaux. Alors pourquoi le choix par le pouvoir politique des intercommunalités?
Les intercommunalités, ça part d'un principe très technocratique qui dit il y a autant de communes en France que dans toute l'Europe et on en tire la conclusion qu'il faut réduire le nombre de communes. Moi, c'est tout le combat et tout mon engagement. Je pense que la commune reste un lieu démocratique de proximité et peut-être qu'il serait très bien que dans les grands pays d'Europe, il y ait plus de proximité au travers d'un tissu. Moi, on est jumelé avec l'Italie. 7 communes en 1933 de manière autoritaire par Mussolini. En 1933, hein, 90 ans après, une liste n'est jamais élue si elle ne met pas le premier adjoint dans le village. C'est la représentation, elle est les villages. Quand on est à Sochi, on n'est pas bivé, non, on est pourtant à 5 km. Mmh. C'est depuis 1933. Hein. Une seule chose qu'ils ont fait en commun, il y a 7 terrains de foot, il y a 7 mairies. La seule chose qu'ils sont arrivés à faire en presque 90 ans, en commun, c'est une piscine couverte.
Alors, l'Italie, qui nous a souvent donné en exemple de pays ayant un faible nombre de communes. C'est souvent, on nous dit comme ça, « Ah oui, mais regardez les Italiens, ils ont beaucoup moins, ils n'ont pas 36 000 communes. » pour une fois qu'on ne prend pas l'Angleterre, le Royaume-Uni ou la.
Quand on est allé signer le jumelage, heureusement que je suis resté que 6 jours, tous les jours, on allait dans les villages et qui n'avaient plus aucune existence. Serraval, mais voilà, mais il y a un attachement. Regardez, vous êtes périgourdin, vous voyez de temps en temps qu'il y a un enterrement à Saint-Agnan. Saint-Agnan, ça fait plus d'un siècle que la commune a disparu. C'est la commune en bas d'Hautefort. Mais quand on est à Hautefort, on n'est pas de Saint-Agnan. Et ça fait 100 ans. Hein. Il y a encore les annonces nécro, Saint-Agnan.
Et puis encore un centre de loisirs à Saint-Agnan.
C'est ça.
Je reviens sur une des questions, ce que vous avez dit. Du coup, pour vous, en fait, la commune, c'est un outil de démocratie. Quand vous dites l'Europe considère qu'en France, on a beaucoup de communes.
Tous les sondages montrent quel est l'élu qui est le plus estimé par les habitants, qui est l'élu qui a le plus de proximité avec ses habitants, c'est le maire. C'est... Tous les sondages montrent.
Alors, pour rebondir dessus, est-ce que vous pensez justement, bon, je citais un sondage, mais bon, peu importe le sondage, un sérieux, Public Sénat quand même, donc une chaîne sérieuse, qui disait que le maire était considéré comme l'élu le plus proche des administrés, celui qui est le mieux reçu par les administrés. Et ma question est la suivante, ne pensez-vous pas que l'ajout d'une strate supplémentaire, l'intercommunalité, au niveau local, risque d'augmenter la distance, voire la défiance entre administrés et élus? Je crois que vous avez déjà en partie répondu.
Oui, mais moi, j'en étais convaincu au début. Mais après, on nous a forcé la main à rentrer dans l'interco. Et on se rend compte que, moi, ce que je constate, c'est que l'interco, c'est souvent un maire, parce que les petites communes ont droit à un représentant. S'il n'y a pas un travail du maire vers les administrés de ce qui se décide à l'interco, il y a une césure qui intervient. Mais en Dordogne, il y a un certain nombre de communautés qui sont en crise. Ça se dit pas beaucoup, mais il y a de véritables crises. Vous allez en terrassonner, vous verrez qu'il y a une interco qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que l'éloignement des lieux de décision. Mais alors, ce n'est pas contradictoire. Je me suis trouvé élu à la présidence de l'agglo. J'essaye, moi, au quotidien, ça ne plaît pas à tout le monde. J'essaie de faire en sorte que j'ai un discours simple. Chaque commune compte pour un. Voilà, il n'y a pas de grandes communes et de petites communes. Mais c'est un exercice qui n'est pas facile à gérer tous les jours.
Alors, vous introduisez ma question suivante, ce qui est parfait.
Ah bon ?
N'existe-t-il pas un risque d'hégémonie de la commune la plus importante sur les autres composantes de l'intercommunalité en dépit du mode de représentation de son assemblée ? Je pense que...
Ah ben, le risque, il existe. L'envie existe. L'envie que les villes-centres, mais ça vaut à Bergerac, à La Rochelle, à Cognac...
La pratique, elle existe.
Elle existe. Ben, on est en crise. Hein. Au niveau de l'agglo de Périgueux, ben, c'est tout simplement qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont un peu plus peuplés, ils ont le droit de décider. Moi, j'ai une image, j'arrête pas de dire... aux élus, ils comprennent les habitants aussi. L'interco, ce n'est pas les rayons de Auchan. On vient chercher, on fait ses courses et on prend. C'est une construction démocratique avec l'ensemble des élus. Et en essayant, là, on a regardé en début de semaine un plan de communication avec nos habitants pour leur faire comprendre, parce que c'est incompréhensible. Il y a des sujets, on nous a refilé là, l'eau, l'assainissement... mais les gens s'y retrouvent pas.
Je comprends tout à fait.
Voilà. Les centres de loisirs, l'école, vous avez à 17h, l'école arrête, le centre de loisirs où l'accueil des gosses est intercommunal. Non, mais
c'est infernal. Oui, c'est un véritable Léviathan, quoi, ces intercommunalités avec toutes ces attributions comme ça.
Mais de notre côté, quand vous allez dans le canton d'Issijac, 3200 habitants, 18 communes, on peut se poser des questions aussi.
Mais moi, j'ai connu, alors je viens de région parisienne. Si vous prenez par exemple le problème avec Paris, l'hégémonie de Paris, 2 millions d'habitants, toute l'Île-de-France, 12 millions d'habitants. Vous voyez, et pourtant Paris mène la danse. Ben oui. C'est problématique.
Surtout qu'à Paris, il y a un bon maire.
Oui.
Bonne maire.
C'est. Mais pour vous, est-ce que c'est légitime ça, que le nombre fasse la force dans la représentation?
Attendez, moi je ne sais pas comment ça va évoluer. Vous voyez aujourd'hui le phénomène gilet jaune, la crise aujourd'hui que l'on connaît. Il y a, contrairement à ce qu'on pense, les gens aspirent à être pris en considération. Tout élu qui se respecte aujourd'hui parle de démocratie participative, etc. Vous avez un maire à Périgueux qui met un panneau et une urne, décide-moi ta place. C'est ce qui se passe. Le problème, c'est que est-ce que les enfants de l'école, je ne sais pas où, qui dessinent l'école, a la capacité de savoir si on peut planter ce type d'arbre-là? Il y a quand même une technicité, il y a les décisions, elles sont quelquefois aberrantes, mais elles sont souvent quand même faites de bon sens. Voilà. Et moi, je pense que l'exemple abouti de cette démarche technocratique, c'est les régions. On est parti de l'idée qu'en faisant des régions plus grandes, on allait faire des économies. Vous prenez les articles dans Le Monde, toutes les études montrent que c'est un surcoût énorme. Alors vous allez me dire pourquoi. Ben, je vais vous dire une chose, les communes, c'est ce qui coûte le moins cher. Parce que vous allez dans un petit village en Dordogne, le maire, il y a un couple qui se casse la gueule. Le maire intervient. Il pleut, le maire intervient. Ça brûle, le maire intervient, etc. etc. Quand vous êtes dans une métropole ou une ville, si vous avez un incendie à Bordeaux, hein, c'est immédiatement le personnel de la métropole qui sort. Alors, le bénévolat, on est en train de dire, le bénévolat se casse la figure. Pourquoi il se casse la figure? Comment on se retrouve? Vous n'allez pas faire, je ne suis pas un adepte, hein, vous n'allez pas faire un loto du Grand Périgueux. Même si le personnel du Grand Périgueux lui prend l'idée de faire une fête, les gens ne vont pas adhérer. Alors que vous allez dans les villages, c'est plein à gaver le soir pour gagner une dinde ou un canard, parce qu'ils sont entre. Enfin, excusez-moi, messieurs, est-ce que vous êtes bien d'accord que ce qui nous fait homme, c'est justement le fait qu'on se parle?
Tout à fait, c'est le vivre ensemble.
Parce que souvent, on reste en meute.
Ouais.
Et donc, on a naturellement besoin d'être. Même s'il y a des gens qui sont vraiment emmerdants, hein. Mais on les connaît. Hein. Moi, j'ouvre les portes, j'écoute, je suis patient, j'écoute. Voilà, parce que les gens ont besoin.
Pour confirmer ce que vous dites, mes parents qui venaient des régions parisiennes n'ont jamais eu une vie sociale aussi développée qu'à l'époque où ils sont arrivés à Genis. Ils n'ont jamais eu une vie sociale aussi développée.
Et voilà.
Mon père, c'était un autre homme, lui qui était fermé et tout. C'était le cinéma itinérant, les réunions.
Où on élève les bisons.
Voilà, c'était. Hein,
le restaurant. Oui, je connais, mais. Non, mais c'est vrai.
Oui, oui. C'était vraiment. C'est le lien humain est prédominant.
Et c'est ce qui nous fait homme par rapport aux animaux.
Nous allons faire une pause musicale avec le groupe L'Accent au titre Démocratie.
Jésus, esclavage pour dettes, inégalités sociales. Athènes en taille, Athènes de taille. Une nouvelle classe urbaine émerge et conteste. Que les pauvres conservent, ce que les nobles conservent. La démocratie jaille. Le pouvoir au peuple ne lui appartient plus. En France, il est parti dans les partis. Bien réparti, véhicule l'empathie. On joue dans leur partie et la terre en pâtit. On est devenu le problème. En fait, on est la solution. Pendant qu'on les juge, ils nous perdent. Ne font que s'adapter à l'opinion.
Aux yeux, un véritable spectacle de magie. Ils ont l'idée, nous avançons. Le jeu se nomme démocratie.
On retire notre socle,
Oui, on retire notre socle, même si le cube est jeté. Si on retire notre socle, ne pas s'éloigner des autres, renverse les règles de l'échec. La terre que j'ai foulée enfant est celle que je défendrai tout le temps. Malgré ses défauts, je la porte dans le sang. Je parle de la France au sens large, un pays en couleur chargé d'histoire. Ne laissons pas les politiques à ramener leurs idées noires. Et quand elles me déçoivent, je me barre en voyage voir d'autres territoires et paysages. Là où le partage règne, on ne se pose plus de questions. Les gens quittent leur terre pour des réponses. J'ai eu affaire à des gars sympas, fuyant une dictature d'un autre âge. La démocratie, ils ne la connaissent pas. Les lois sont dictées par les rois.
Ils passent des lois parfois dans la vue d'un seul point de vue. On ne peut pas tout voir. Démocratie, même quand les manifs n'exercent plus aucun contre-pouvoir. Bosser, atteindre les sommets, je médite pour ceux qui m'ont sauvé. Le vaisseau français est offensé. La liberté d'expression poursuit Dieu d'eau. Liberté, égalité, fraternité. Comment ça se fait que certains se sentent pas intégrés? Il faut de tout, un peu de chacun. Même les chacals se trouvent des catins. On n'est plus victime quand on passe à l'action. La clé se trouve dans le pardon.
Puisqu'on est né dans un pays en démocratie. Puisqu'on est né dans un pays.
Ce qu'on peut faire aux femmes en toute égalité. Et l'égalité n'est pas la même pour tous. Elle dépend du sang, de nos ou d'une bourse. Ah, et moi blasé de nos lois, de nos droits. Je ne porte pas de croix ni de poids. La France a son histoire et je ne m'en bats pas. Quand je veux la quitter, elle me dit t'en vas pas.
Un ancien concept créé pour souder nos liens. Prétexte pour qu'on se tienne la main. Le genou toujours posé. Contrôler nos liens, nourrir la peur de son prochain. Exprime, il faut que ça sorte. Exprime-toi, il faut que ça sorte. Ce joli mot, il vienne le bafouer. Si tu prends la parole, fais en sorte de faire retentir tes notes de manière propre et civilisée.
Puisqu'on est né dans un pays en démocratie.
En démocratie.
Du coup, il y a quoi de positif alors à monter des aussi grands ensembles?
Moi, je vous ai un regard très critique. Bon, il est incontestable que ça apporte, ça dépend qu'est-ce qu'on y donne comme contenu. Il y a les, vous savez, moi, je prends, j'ai toujours en tête Saint-Gérard, 250 habitants, une secrétaire de mairie, 12 heures par semaine. Le maire, avec ça, il ne fait pas... Non, mais voilà, donc l'agglo. Mais ici, ce n'est pas partout pareil. Ici, on a créé des services pour que les maires aient des points de support pour pouvoir avancer. On leur monte les dossiers pour leur financement. Mais, attendez, moi, j'ai rien à vous vendre. C'est la démarche qu'on fait ici.
Oui, c'est la rationalisation des services,
ah
la
oui.
mutualisation, des services,
mutualisation des services.
Qui permet... Ça,
c'est si, positif, oui. à l'inverse, vous êtes avec un capot comme à Angoulême ou à Cognac, où le gars il décide tout pour lui et que les autres n'ont plus qu'à lever la main de temps en temps, ben, ça crée des crises. La plus grosse crise en ce moment, c'est à La Rochelle. Ah oui. Et ça tombe toujours le maire de la ville centre qui...
Donc à bien suivre, ce qui est négatif, c'est que ça vide la vie des campagnes, le fait d'avoir fait des métropoles, etc.
Mais il serait allé plus loin. Hein. Je vous signale qu'il y a un obstacle à la suppression des communes. C'est la Constitution qui, elle, a rentré. La commune est un élément constitutionnel. Aujourd'hui, n'importe qui peut tenter n'importe quel référendum et ils n'auront pas une majorité pour supprimer les communes. Heureusement qu'il y a. Oui, parce que les régions, les départements ne sont pas dans la Constitution.
Non, non. Et justement, je pense qu'ils y ont pensé. Ça va être la suite, ça va être ma question suivante. Le moyen de se débarrasser des communes, n'existe-t-il pas un risque à terme de voir les communes auxquelles les citoyens sont sincèrement attachés être vidées de leur substance par l'extension des domaines de compétences alloués aux intercommunalités? Donc, la commune existera toujours, théoriquement, mais...
Il déposera une gerbe de fleurs le 11 novembre. Il fera un mariage par an, voilà. Ah, oui.
Un président de la 4e République, voilà.
Ah, oui, c'est... Les inaugurations. Mais c'est ce qu'ils veulent.
Oui, oui.
C'est ce qui sous-tend le projet. Alors après, on peut essayer de le contrecarrer.
Et ça vient de la construction européenne, ça ?
Ah non, non. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, non. L'Europe, c'est aussi une construction nébuleuse. Vous pouvez me donner le nom de votre député européen ?
Il n'y a pas d'attachement régional au député européen, tout à fait. Ouais. Il n'y a pas d'attachement local.
En clair, qui c'est qui est député européen? C'est ceux qui ont été battus aux élections directes.
Tout à fait.
Et on leur donne un sucre d'orge pour compenser le fait qu'ils ont été battus. Moreno, par exemple, et d'autres. Donc il n'y a pas d'ancrage.
Il n'y a pas d'appétence même pour la question européenne de la part de nos élus. Tout à fait. De même, est-ce que l'Europe, c'est une fédération, une confédération? On n'en sait rien. C'est même pas clairement défini. Oui, mais c'est quand même important. On ne sait pas.
Même voilà, là, si vous regardez les événements d'Ukraine qui sont dramatiques, la Suisse s'en sort, ne peut pas participer. La Hongrie n'est pas sur le tempo des autres. La Turquie, qui est dans l'OTAN, soutient la Russie. Attendez, comment voulez-vous que nos citoyens se retrouvent dans ce hasard?
Alors, pour conclure, sous forme de boutade, une dernière petite question. À quand un grand Périgueux avec les 503 communes du département?
Et quand les énarques auront gagné. C'est à ça qu'ils veulent arriver. Non, mais le bout du bout, là, la région Aquitaine, c'est une catastrophe. Mais ils s'en rendent compte maintenant. Maintenant, les dégâts sont faits.
Et continue.
Non, mais... Alors, par contre, il y a deux angles pour répondre à ça. C'est vrai qu'il y a des élus, j'en fais pas partie. Moi, je suis un élu qui est très attaché au maintien du département. Le département pourrait jouer un rôle à l'échelle. Le département, c'est aussi, les gens savent moins, mais ils savent quand même que c'est un équipement de proximité. Et un élu du département... Il est comme un maire, il est à la limite d'attraper une baffe, il est à côté des gens. Le problème, c'est, je vous mets au défi de me donner les 12 élus régionaux qui nous représentent à Bordeaux, c'est pourtant pas loin. Qui, ici, nous représente à Bordeaux?
Franchement, je ne sais pas.
Les 12. Voilà, déjà, rien que ça, une distance qui est prise. Et vous avez vu, ils veulent aller plus loin. Ils veulent reprendre, Macron veut reprendre Sarkozy pour faire conseiller régional et conseiller départemental, parce qu'ils veulent supprimer le département.
Ouais, ça c'était, oui, le département. Justement, ma question, elle était aussi pour ça. Est-ce qu'ils ne veulent pas remplacer les départements par des intercommunalités?
Mais bien sûr que si. Voilà. C'est l'objectif. Le problème, c'est que on ne mesure pas trop ce que représente le département. Toute l'aide sociale, l'aide à l'enfance, les vieux, les maisons de retraite, c'est un travail énorme. Si on, il y a quand même, le département a un avantage et une péréquation financière au niveau du département. On donne, moi je suis conseiller départemental, on donne le même prix dans une maison de retraite à Villefranche-du-Périgord qu'à Périeux. Demain, si ça se fait en fonction de la richesse du territoire, même sur la Dordogne, on peut, selon qu'on habite dans un endroit un peu plus riche,
bénéficier de...
la, le département a un effet péréquateur. C'est le RSA, c'est l'allocation adulte handicapé, c'est l'aide, l'aide médicale, les aides ménagères. Mais le prix est le même. Le département est encore une collectivité qui assure une péréquation. C'est déjà 400 000 habitants. Mais je pense que dans la tête des énarques qui nous gouvernent, quand on prend la loi, on avait accueilli, j'ai mangé avec lui, avec d'autres, de Gaston Defer, mais quand, la loi de 82, on l'a présentée en Dordogne en 83. Je me rappelle. Mais quand on voit le, la succession, vous avez hier ou avant-hier, Laurent me l'a envoyé, il y a un article du Monde où les maires gueulent, ils sont en, les, nous, c'est déjà fait, nous, à l'aglo, mais ils perdent l'eau, la gestion de l'eau. Parce qu'en 26, il faut que l'eau soit transférée aux intercos. Il y a des maires en montagne, en Savoie, qui gueulent, parce que c'est quand même vital pour savoir où on met une maison, où on facilite la vie des gens. Mais vous êtes au cœur des questionnements que devrait avoir. Et je pense qu'une des raisons de cette colère mal maîtrisée qu'a été les Gilets jaunes, qui est également le vote insoumis, mais qui est également le vote Front National, de sentir qu'on n'est plus représenté, qu'on n'a plus son mot à dire, l'éloignement des structures est dangereux. La démocratie, c'est un bien qu'il faut choyer au quotidien.
Monsieur le Président, je vous remercie pour vos réponses, la sincérité de vos réponses, pour votre accueil et le temps que vous nous avez consacré.
RLP.
Lui, c'est lui, et moi, c'est moi.
Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur. Le
Big Bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Jeanne, au secours!
Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.